résistance, Radio Képi vous invite aux journées portes ouvertes qu'elle organise du 13 au 16 décembre de 9h à 16h. Pour associer la voix à l'image, une exposition photo de tous ceux qui se cachent derrière le micro vous est offerte au Centre Wallonie-Bruxelles. Voici une occasion à ne pas rater de visiter nos studios et vivre en live le travail que fait une grande équipe. 15 ans de liberté d'expression, ça se célèbre.
Voilà, c'est parti pour le magazine Okapi Service de ce jour. On attaque avec ce premier sujet sur comment promouvoir les droits des personnes vivant avec handicap en RDC. Vous le savez, les conditions socio-économiques des personnes vivant avec handicap en RDC sont précaires. À Kinshasa, par exemple, beaucoup demandent l'aumône auprès de passants à longueur de journée. L'intégration socio-professionnelle n'est pas aussi facile que ça pour cette catégorie des personnes. Pour les ONG de défense des droits des personnes vivant avec handicap, l'adoption de la loi organique portant protection et promotion des personnes handicapées va contribuer à l'amélioration des conditions de vie de cette catégorie des personnes en RDC. Alors comment donc promouvoir les droits de toutes ces personnes vivant avec handicap en RDC? Je le disais en sommaire de cette émission, nous recevons Madame Alice Mirimo, directeur général du Fonds national de promotion et des services sociaux, et nous rappelons également les contacts si vous êtes intéressé par ce sujet. N'hésitez pas, composez les 081 890 63 94. Vous pouvez aussi réagir sur la page Facebook Okapi Service. Alors, madame, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir encore une fois pour parler de cette question qui concerne le personne vivant avec handicap. Et la première question qui me vient à l'esprit, est-ce que vous pouvez nous faire aujourd'hui un état des lieux sur les conditions de ces personnes qui vivent avec handicap?
En fait, merci beaucoup et merci à la Radio Capi qui ne cesse de faire la promotion de personnes vulnérables, particulièrement des personnes handicapées. J'aimerais d'abord préciser que le 3 décembre 2016, c'était la journée dédiée aux personnes handicapées, la journée des Nations Unies. Et comme notre pays est membre des Nations Unies, nous l'avons célébré. Et c'est Son Excellence Madame Adèle Debala Sekanda qui l'a organisé, Madame la Ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale. Elle l'a organisé en collaboration avec la Commission Socio-Culturelle de l'Assemblée Nationale, avec évidemment l'appui de Konrad Adenauer et du Fonds National de Promotion et de Services Sociaux. Le thème a été très interpellateur. J'y reviens parce que c'est l'objet même, c'est l'essentiel de cette émission. Les thèmes que Son Excellence Madame la Ministre a fixé ce jour-là, construisons un pays plus inclusif et plus équitable pour les personnes handicapées à travers l'adoption et la promulgation de la loi organique portant protection et promotion des personnes handicapées en RDC.
Oui.
C'était un thème très interpellateur et surtout pour les représentants de notre peuple, les élus du peuple qui sont les parlementaires. Et ce qui nous a réjouis, c'est que cette journée a été célébrée avec une note particulière, parce que c'est la première fois que ça se célèbre avec la représentation nationale, donc avec les députés nationaux. Et nous étions d'ailleurs au Palais du Peuple. Et pour les députés nationaux, ils sont maintenant devant deux défis. Le défi d'abord d'adopter la loi, parce que le gouvernement attend déjà cette loi, le chef de l'État est déjà prêt à aller promulguer, mais il faut que ça quitte les deux chambres. Le deuxième défi qu'ils ont
Pour l'instant, la loi traîne encore au niveau des deux chambres.
C'est à l'Assemblée nationale. Et ce jour-là, nous étions en face du président de l'Assemblée nationale. Évidemment, il était représenté par le rapporteur, mais pour nous, le bureau de l'Assemblée nationale était là. Et même le président de la Commission socio-culturelle du Sénat était là. Il a dit, lui, eux, ils n'attendent que cette loi au niveau de la chambre, de leur chambre, parce que bon, ils voient pas qu'est-ce qui peut empêcher que cette loi quitte le Parlement. C'est une loi très, très vitale pour les aspects sociaux de nos compatriotes.
Mais puisque vous parlez de cette loi, madame, et vous estimez que l'adoption de cette loi peut vraiment booster ou bien, c'est-à-dire accélérer l'amélioration des conditions de vie des personnes vivant avec handicap, est-ce que quelles sont les grandes lignes de cette loi?
En fait, je pense que les parlementaires pourront y revenir. Mais nous sommes convaincus que cette loi pourrait booster parce que c'est le cadre juridique. Le cadre juridique a toujours été demandé pour l'organisation de la société. Déjà, la Constitution en a fait une loi organique. Donc, c'est une loi qui est en complément de la Constitution. Et puis, Au niveau du gouvernement, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été fournis, mais pour que ces efforts soient vraiment vécus dans la vie de nos compatriotes avec handicap, il faut qu'il y ait cette loi. D'abord, au niveau du gouvernement, donc, il y a d'abord cette constitution qui, à l'article 49, exige qu'il y ait une loi organique qui parle de la protection des personnes handicapées. Notre pays a adhéré à l'arsenal juridique international, donc à la Convention internationale relative aux droits de personnes handicapées, qui aussi à l'occasion, le 3 décembre, le monde entier a fêté 10 ans de son existence. Et notre pays a adhéré, et le chef de l'État, depuis 2013, a promulgué la loi portant adhésion à cette convention. Et en 2015, en septembre, il a fini le processus de ratification. Il a signé l'instrument d'adhésion. Et dedans, il a même déclaré que le pays appliquera cette loi donc en toute responsabilité et ne violera aucune disposition de cette convention. Et donc, il est maintenant de la responsabilité des honorables députés de traduire cette convention en termes de loi au niveau du pays. Et donc, vous voyez que c'est vrai que ça ne nous empêche pas déjà d'agir, parce j'aimerais annoncer, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, qu'au niveau du Fonds national de prévention des services sociales, le gouvernement vient aussi de doter un autre plan stratégique, c'est le plan stratégique quinquennal 2016-2021 de protection et de promotion des personnes handicapées, que d'ailleurs nous avons élaboré ensemble avec les personnes handicapées et durant le processus des états généraux. Et ce plan a été adopté ensemble lors de la table ronde de ces états généraux qui a eu lieu du 2 au 4 juin 2016.
Alors parlons un peu de ce plan stratégique, puisque vous l'avez bien dit, il ne faut pas croiser les bras en attendant que cette loi soit finalement votée au niveau des deux chambres puis promulguée par le chef de l'État. Alors, vous parlez de plan stratégique, faites-nous découvrir un peu ce plan stratégique, qu'est-ce qui est prévu dans ces plans?
J'aimerais d'abord revenir sur cet état des lieux, parce que c'est important, parce que son excellence Madame la Ministre y est revenue le 3 décembre. En fait, elle nous a révélé que quand il y a eu la promulgation de la loi portant adhésion à la Convention, donc en 2013, on disait à ce moment-là que le nombre de personnes handicapées dans notre pays était estimé à 9 millions, soit 13% de la population. Mais il s'est fait qu'après les états généraux, parce que pendant les états généraux, il y a eu 2 mois d'enquête, 2 mois de février au mois de mars, dans les 11 anciennes provinces, il y a eu une enquête qualitative. On a interrogé des personnes handicapées. Et à l'issue de cette enquête, il a été découvert aussi que le nombre des personnes handicapées s'est augmenté. Avec tout ce qu'il y a eu comme conflit, il y a eu des soldats blessés des guerres, il y a eu beaucoup de cas. Les catastrophes naturelles aussi, le volcan et autres. Et donc, les cas est estimé aujourd'hui à plus ou moins 13 millions de personnes handicapées. Donc, on est allé à hausse, soit 18%.
Et donc, quand vous dites près de 30% de la population des personnes vivant avec handicap, et c'est tous les handicaps confondus.
Oui, confondus. Oui. D'ailleurs, pour le ministère des Affaires sociales, ils ont ajouté aussi les albinos. Et on commence même à élargir ça sur toutes les maladies invalidantes, au fait, parce qu'il y a même la trépanocytose et d'autres maladies qui ont été ajoutées. Et c'est pour donner la chance à toutes ces catégories d'avoir des solutions. Et ce plan stratégique est entré dans cette logique-là, de donner l'opportunité à toutes ces catégories de personnes handicapées d'avoir des solutions à leurs problèmes. Et pendant, d'ailleurs, la table ronde, le gouvernement a opté pour l'inclusion sociale. Quand le gouvernement opte pour l'inclusion sociale, ça implique beaucoup de choses. Et le plan stratégique pour la promotion et la protection des personnes handicapées est entré sur cette logique d'inclusion sociale. Et donc, pour ne pas rester sur le même point, je révèle déjà aujourd'hui à nos compatriotes que ce plan stratégique a 5 axes.
Oui.
D'abord, nous devons avoir une politique et une stratégie nationale de protection et de promotion des personnes handicapées. C'est important. Il faut que dans chaque domaine de la vie nationale, l'on sache qu'est-ce qu'on fait pour inclure nos compatriotes. Je vous donne l'exemple des infrastructures publiques. Aujourd'hui, je ne sais pas, à part le bâtiment du gouvernement, parce qu'il a été conçu récemment, mais il n'y a pas un autre bâtiment public qui respecte ces normes-là. Il n'y a pas de rampe, il n'y a pas moyen que les personnes handicapées.
Il n'y a rien qui est prévu pour les personnes vivant avec handicap.
Il n'y a rien. Au niveau de l'hôtel du gouvernement, oui, là, on a vu ça.
Au niveau des passerelles aussi,
des passerelles, voilà, les routes et tout ça. Donc, les infrastructures doivent intégrer les bâtiments, la construction des bâtiments et de tous les ouvrages publics. Il y a aussi l'éducation. Il y a l'enseignement spécial. Ailleurs, ça marche. Vous savez, il y a maintenant des téléphones qui ont l'écriture braille. Hein? Maintenant, il y a des imprimantes qui sortent l'écriture braille. Nous aussi, on doit évoluer vers là. Donc, il faut cette politique. On doit donner des politiques claires pour l'aide à l'emploi, pour avoir des logements adaptés. Deuxième axe important, c'est développer des piliers, des moteurs d'inclusion sociale. La prévention, la protection, la promotion, l'accessibilité, l'éducation, la formation, l'emploi, l'entrepreneuriat des personnes handicapées, la santé de la reproduction pour les femmes handicapées, la réadaptation à base communautaire, la technologie appropriée et adaptée et la réinsertion sociale.
Et donc tout ça nécessite de moyens.
Je vais vous expliquer la stratégie de financement, la mobilisation des ressources, d'ailleurs c'est le troisième axe, et la mise en place des bases de données. Vous savez, tous ces chiffres que nous avançons aujourd'hui, c'est des estimations. Mais nous devons avoir un mécanisme clair, un observatoire clair qui nous dit avec précision quelles sont qui sont les personnes handicapées, où sont-elles, c'est quelle catégorie, et ça doit être tout un système mis en place. Et à la fin, le cinquième axe, c'est la mise en place du mécanisme participatif de mise en œuvre, de coordination, de suivi et d'évaluation des actions du plan stratégique quinquennal. Et donc, on a l'avantage de faire tout ça avec les personnes handicapées elles-mêmes. Et je vais revenir après maintenant sur la stratégie des finances.
Si vous allez y revenir, madame, nous rappelons à toutes les personnes qui viennent de se joindre à nous. Nous parlons avec madame Alice Mirimo, directeur général du Fonds national de la promotion du service social, du comment promouvoir les droits des personnes vivant avec handicap en RDC. Nous avons déjà Ngalula Wantamba, Tamba qui nous appelle de Kolwezi, Jean Dambosche qui est également à Kolwezi, et Dr Chitenge Valentin qui est à Kinshasa. Si vous êtes également, vous voulez également poser des questions sur ces sujets, sur comment promouvoir les droits des personnes vivant avec handicap en RDC, composez les 081-890-63-94.
Okapi Retro fait revivre les tubes des années 60, 70 et 80. Rumba, pop, disco, slow, des heures de musique congolaise, africaine, européenne et américaine. Le dimanche soir de 19h à minuit, le lundi et le mardi de 21h à minuit. Avec les mix de DJ Daddy.
Ngalula Wantamba Tamba, vous nous appelez de Lubumbashi, bonjour.
Monsieur le journaliste, afin de poser une question, je vais vous présenter la vie des personnes vivant avec un handicap qui sont en train de vivre ici à Lubumbashi. Parce qu'au moment où nous parlons, la plupart sont déjà dans les marchés centrales pour mendier à n'importe quelle personne. Et la plupart de ces personnes, ce sont des analphabètes, ils n'ont pas appris. Et la première question que je vais poser à notre invité qui est sur place dans les studios, quel conseil peut-il donner à un couple qui a donné naissance à un bébé qui a l'handicap? Et la deuxième question que je vais lui poser, c'est que quel conseil peut-il encore donner à une personne qui vit avec l'handicap? Par exemple, ici à Lubumbashi, il y a une personne qui a perdu une jambe à un accident qui a eu lieu entre Lubumbashi et Kolwezi. Il a perdu la jambe, la personne est en train de chercher à prendre les médicaments afin de mourir, tout ça. Alors, je demande à notre invité quel conseil peut-il donner à cette personne qui a perdu la jambe et qui est prendre les médicaments pour mourir. Merci.
Merci, Ngalula Wantamba, depuis Lubumbashi, à Kolwezi. Jean Dambosche est en ligne. Bonjour, Jean Dambosche.
Bonjour, merci. Bonjour à l'invité, ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Rapi. Je voudrais dire ceci. Puisqu'aujourd'hui, je pense bien que la République est en train de raisonner pour la promotion des personnes vivant handicap. Alors, il y a une question qui me vient à l'esprit, puisqu'il y a un adage qui dit: l'oisiveté est la mère de tous les vices. Alors, en ce qui concerne, parce que nous voyons ici, il y a des handicapés qui sont très intelligents, capables de faire quelque chose dans la vie, mais ils sont un peu oisifs. Il y a les autres qui se mettent à demander dans des marchés et autres. Alors, je voudrais penser, et je voudrais dire ceci, est-ce que l'invité peut nous rassurer que cette loi pouvant permettre la promotion des handicapés, est-ce qu'il y a fait allusion aussi à ces handicapés qui sont un peu oisifs? Et la deuxième question, je voudrais savoir un peu de précision, puisqu'on parle toujours des handicapés handicapés. C'est qu'un handicapé, handicapé physique ou soit handicapé moral. Voilà ma préoccupation.
Merci. Jean Dambosch, depuis que Louisie, on revient à Kinshasa. Et on va accorder la parole au docteur Chitengi Valentin. Bonjour, docteur. Docteur Chitengi Valentin, vous êtes en ligne?
Oui, allô, Piro?
Non, c'est Marcel à l'antenne. On vous écoute, docteur Chitengi Valentin. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ces sujets sur comment promouvoir les droits des personnes vivant avec handicap en RDC?
Est-ce que vous pouvez bien hausser la voix? Je ne vous entends pas bien, Pierrot. Je ne vous entends pas bien, vous pouvez bien hausser la voix.
Docteur Chitengi Valentin, c'est Marcel à l'antenne. J'ai demandé qu'est-ce que vous avez à poser comme question par rapport à ce sujet sur comment promouvoir les droits des personnes vivant avec handicap en RDC. J'espère que cette fois-ci, vous m'avez bien entendu.
Oui, merci, Pierrot. Merci aux auditeurs de la radio Okapi. Bien que je n'ai pas bien saisi ce que vous dites, vous m'avez dit que vous parlez autour de la loi portant promotion et protection des droits des personnes handicapées. Je suis activiste et défenseur des droits des personnes handicapées. Je suis très intéressé par les sujets. Il y a 10 ans, jour pour jour, qu'un projet de loi a été déposé au Parlement par un député national. Malheureusement, ce projet de loi n'a pas évolué comme souhaité. Mais nous pensons maintenant qu'il est temps. Allô, Pierrot ?
On vous écoute, docteur Chitengi. C'est Marcel à l'antenne et vous êtes bien en ligne, docteur. Allez-y, parlez, docteur. On vous écoute attentivement.
Mais vous sortez trop bas. Je ne vous capte pas. Vous sortez trop bas. Moi, je ne vous capte pas. Je ne comprends rien.
Mais docteur, si vous continuez à parler, je ne sais pas faire autrement, docteur. Je sais même de parler fort pour que vous m'entendez. Mais moi, nous, on vous entend sur 5. Donc, continuez à parler si vous m'avez entendu. Continuez à parler.
Je ne vous entends pas, Pierrot. Je ne vous entends pas.
On peut pas continuer dans ces conditions avec Dr Chitengi Valentin. J'espère qu'au niveau de la réalisation, on va essayer de voir comment récupérer cet auditeur avant la fin de cette tranche sur comment promouvoir les droits des personnes vivant avec handicap en RDC. Mais on a compris sa préoccupation par rapport à cette loi organique qui traîne encore au niveau de l'Assemblée nationale. De l'estime que il faut rapidement qu'au niveau des députés qu'on puisse pencher sur cette loi organique concernant les personnes vivant avec handicap, hein, et donc ça pourra peut-être changer beaucoup de choses par rapport au droit et à la promotion de cette catégorie des personnes. Alors, Madame Alice Miro, on revient à vous. Vous avez suivi il y a Angalawa Tamba Tamba qui a évoqué ce qu'on a dit ici à Kinshasa, les conditions de vie des personnes analphabètes, plutôt vivant avec handicap. On le trouve ici, hein, là, en train de mendier à longueur de journée. Il a également dit, c'est aussi le cas à Lubumbashi, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Et a également demandé si vous avez un conseil à donner, par exemple, à des parents qui ont mis un enfant vivant avec handicap ou encore à une personne qui vit avec handicap.
Oui, merci beaucoup. C'est vrai. Ce qui est dit, nous observons, nous tous, d'ailleurs, même à Kinshasa, sur le boulevard, sont les personnes aveugles qui sont là. En fait, j'aimerais répondre en résumant ceci pour nos auditeurs. Au niveau du gouvernement, et là principalement au niveau du ministère des Affaires sociales, parce que c'est là où la question du handicap est prise en charge, du moins pour ce qui est de la coordination de l'action, le développement des droits de personnes handicapées a été pris à 4 niveaux. Le premier niveau, c'est l'aspect légal et réglementaire. Et pour ce niveau-là, les responsabilités étaient au niveau et du Parlement, et du président de la République, et du gouvernement. Et le premier pas a été franchi, c'est que le ministre des Affaires sociales avait soumis en 2013 au gouvernement le projet de loi portant adhésion à cette convention internationale, qui est au moins le cadre mondial de tout le monde. Et ça a été fait, ça a connu tout le parcours jusqu'à ce que le chef de l'État a promulgué cette loi. Et la convention est déjà ratifiée. Pour ça, il reste la loi organique, qui est d'ailleurs exigée par la Constitution à l'article 49. Le deuxième niveau de développement de leurs droits, c'est le niveau opérationnel. Et ce niveau opérationnel a connu beaucoup de problèmes parce qu'il n'y avait pas cet organe qui pouvait booster les autres. Et c'est là où le gouvernement a responsabilisé le Fonds national de promotion et de services sociaux, qui est un établissement public avec une mission transversale d'appuyer l'action sociale et humanitaire du gouvernement et de servir de banque sociale et de mobiliser des ressources pour résoudre l'épineux problème du social. Et à ce niveau ici, j'en profite pour y revenir, c'est que il y a une caisse au sein du fonds qui est appelée Caisse de solidarité nationale. C'est une caisse qui est là pour collecter tous les fonds sociaux qui existent dans ce pays. Que ce soit les fonds de la responsabilité sociale des entreprises, que ce soit les fonds de loterie, que ce soit les fonds de solidarité. Nous avons le mandat de le collecter et de le mettre dans le fond, dans la caisse de solidarité nationale.
Et ça se passe aussi comme ça, vous collectez également, ou bien bon, c'est la caisse existe, mais la collecte n'y suit pas.
La caisse existe, mais là on est au niveau de on a d'abord identifié ceux qui doivent participer à la caisse.
Oui.
Et là, je signale que déjà pour le gouvernement, parce que le gouvernement aussi doit donner sa quote-part dans cette caisse.
Oui.
Pour ce qui est du gouvernement, la ministre des Affaires sociales, je l'ai dit, Madame Adèle Debalassé, a défendu dans le budget de la section du fonds et la section du ministère, déjà la quotité du gouvernement pour participer. Et c'est ça le deuxième défi pour les parlementaires. Et elle a dit ça d'ailleurs quand elle était avec eux durant la célébration. Elle attend que les parlementaires valident ce budget. Parce que dès lors que le budget est promulgué, au niveau du gouvernement, il y a des moyens pour commencer le travail. Et une quotité a même été fixée. C'est que 15% des fonds collectés et qui sont dans la caisse de solidarité devront impérativement financer les actions de protection et de promotion des personnes handicapées. Donc, au moins sur le plan opérationnel, il y a déjà la solution. Maintenant, sur le plan de l'implication et la participation des personnes handicapées, c'est là où je chute avec le conseil à notre ami de Lubumbashi. Ben, il faut une participation effective comme acteur, pas comme victime. Mais jusque-là, la plupart participent comme victimes. Je crois que quand on participe comme victime, on est dans une attitude d'attentisme, c'est-à-dire on attend, on tend la main, on demande. Mais quand on a l'attitude d'acteur, et ça je me réjouis que j'ai eu des acteurs autour de moi, des personnes handicapées, qui m'ont vraiment accompagné depuis qu'on a commencé ce processus, depuis 2010 jusqu'à ces jours, comme acteurs. Et ils ne sont pas dans la mendicité, ils ont des talents. J'ai même découvert parmi eux des professeurs, des députés.
Quelqu'un en a parlé, qu'il y a de personnes, le Jean d'Amboche qui nous a appelé, il y a de Colosi. Il a dit qu'il y a des personnes qui vivent avec handicap, mais qui sont intelligentes, qui ont des aptitudes.
Oui, moi j'en ai connu. Et ils ont beaucoup participé d'ailleurs, la plupart comme même experts, comme consultants. Il y a d'autres qui ont été vraiment recrutés comme consultants. Comme le docteur Valentin qui vient de parler, il a aussi participé comme expert au comité de pilotage. Donc, ils sont intelligents. Et moi, je suis consciente de ça. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit, perdre cette démographie de plus de 9 millions, le laisser juste dans cette attitude d'attentif, c'est pas même productif pour le pays. Donc, le pays a intérêt à récupérer ce nombre-là pour qu'ils soient actifs parce qu'ils sont disponibles et sont prêts à travailler.
Alors,
dernier niveau de ce développement, c'est les suivis, évaluation et la participation des parties prenantes. Dans tous les partenaires, il y a des partenaires des bailleurs de fonds qui sont dans le domaine du handicap, il y a des ONG internationales. Je ne peux pas manquer le dire ici, on a travaillé longtemps avec Handicap International au niveau du comité de pilotage, du processus ici. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dans tous les systèmes des Nations Unies est avec nous. Alors maintenant, cela se passera dans un cadre élargi, un comité interministériel élargi aux partenaires du secteur. Et ce comité va être bientôt mis dans un arrêté un arrêté du ministre des Affaires sociales pour que ce soit ce cadre d'évaluation à deux niveaux aussi.
Donc,
ils doivent suivre la mise en œuvre du plan stratégique et ils doivent suivre l'application de la convention internationale.
Voilà, il y a des auditeurs qui sont en ligne, je dirais qu'ils nous appellent de Bandundeville, Jean-Piqué Amayagi, également Jean-Claude Lubumbashi. Mais avant de leur accorder la parole, si vous voulez rapidement parler d'une personne vivant avec, qui est la personne vivant avec handicap, c'est aussi la deuxième question de Jean d'Amboche, pour que tout le monde puisse avoir une idée, qui sont ces personnes dont on parle qui vivent avec handicap.
D'abord, vous l'avez dit, c'est des personnes qui vivent avec handicap. Donc, qui ont une difficulté, soit sensorielle, soit moteur. Maintenant, comme on a dit, on a élargi. Il y a aussi les sourds, ceux qui ont des difficultés pour parler. On a élargi aux personnes albinos. Et aujourd'hui, on parle maintenant des trépanocytaires. Donc, toute personne qui a l'handicap.
Voilà. Donc, c'est pas seulement l'handicap
physique.
C'est
pas seulement l'handicap physique.
Voilà. Oui. Nous allons prendre Jirès, qui nous appelle de Bandundouville. Bonjour, Jirès.
Messieurs les journalistes, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Je profite de cette opportunité à qui je vais poser 3-4 questions.
Alors allez-y rapidement avec vos questions. Oui, vous avez 4, allez-y. La première question,
la première question est celle-ci. Oui. Donc, partie
Je reste, vous voulez bien vous déplacer un moment, on vous entend très très mal. Hein, donc, essayez de vous déplacer comme ça, peut-être ça marchera. Allez-y.
Oui, nous sommes sur la prison. Je pose la première question en ce terme en demandant est-ce que les Soumioué font partie des personnes handicapées? Si oui, qu'est-ce que le ministère des Affaires sociales a déjà fait pour les Soumioué? La deuxième question est celle-ci. Et dans quelle partie de la RDC trouve-t-on plus de personnes handicapées? Et madame étant du ministère, je crois qu'elle a des statistiques ainsi que des données. Quelle est la catégorie d'handicap qui compte plus de personnes? Donc voilà un peu les questions que j'avais pour vous inviter.
Merci, j'y reste depuis Bandundouville. Jean-Pierre, vous êtes à Magui. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Marcel, bonjour aussi à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
On s'écoute Jean-Pierre, quelle est votre question?
Oui, j'aimerais juste compartir d'abord avec l'initiative de la dame, l'invité, et aussi compartir avec toutes les personnes vivant avec un handicap à ce moment parce qu'elles sont nombreuses, j'espère bien, partout en République démocratique du Congo. Mais moi, je n'aurais pas assez de questions. Je vais juste rappeler nos dirigeants et aussi tous les groupes sociaux qui sont congolais à la conscience. Parce que, pour que ce soit ainsi, ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo, c'est quelque chose qui date déjà. Et quand on dit que la loi a été là depuis 2010 jusqu'aujourd'hui, ça continue toujours, alors que nos handicaps en souffrent. Précisément ici à Mahagi, nous avons des personnes vivant avec handicap qui sont malheureusement presque laissées à leur triste sort. Alors que si vous traversez, nous qui sommes à la frontière, si vous traversez l'Ouganda, l'Ouganda voit ici, là en tout cas, on les a pris en charge et tous ceux qui sont presque handicapés vers le côté RDC parfois traversent là pour aller peut-être avoir quelques assistances. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste le problème de la volonté.
Oui.
Quand un handicap, quand cette personne qui souffre devient demandeur, il sera passé par là pour aller demander. Alors que nos autorités, nous-mêmes qui sommes bien conçus, bien nés et qui sommes à pleine santé, au lieu de contribuer à leur sort, nous parfois nous sommes toujours ignorants et nous ne contribuons à rien. Donc je rappelle aux Congolais surtout. En tout cas, de ne pas lâcher et aussi à nos dirigeants d'accélérer, s'il vous plaît, d'accélérer pour qu'il y ait quand même une solution durable. Parce que jusqu'à quand?
Merci, merci. Merci Jean-Pierre, on a compris, hein, donc il faut accélérer hein, que cette loi organique puisse être votée dans les deux chambres et puis promulguée par les chefs de l'État. On a compris Jean-Pierre, merci d'avoir appelé demain à Guy. Jean, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour Jean.
Bonjour.
On vous écoute Jean.
Merci d'abord de la... Bonjour, merci de la parole.
Oui.
Vous me suivez bien?
Oui, très, très bien, Jean, allez-y.
Oui, je dis que... J'ai dit ceci, il y a de cela 9 ou 8 ans que je suis encore intervenu dans une émission similaire. Et j'ai aimé le prédécesseur, le docteur de Kinshasa,
oui,
qui est intervenu là, dit que le dossier ou bien la loi a été déposée il y a de cela 10 ans. Nous sommes intervenus pour faire comprendre aux responsables, aux dirigeants, aux gens qui sont en train de nous diriger. Parce que moi, quand j'interviens, je suis parmi les personnes qui vont être handicapées. Nous sommes à Lubumbashi. Et tout ce qu'ils sont en train de dire aux médias, permettez les termes, ce ne sont que de racontards, ça n'aboutira à rien. Parce que nous avons présenté les techniques simples qu'on pouvait faire pour récupérer tous ces handicapés qui sont en train de sillonner par-ci par-là dans la ville. Ce sont des techniques simples qui ne demandent pas toute cette théorie qui sont en train d'énumérer. Un. Deux, ça sera très impossible et complexé quand quelqu'un qui est valide aborde un handicapé pour le faire sortir du centre-ville avec des conseils. Du coup, l'handicapé, disons, la personne vivant avec handicap est complexée. Et moi, j'ai commencé à le faire sans frais, sans quoi. Je n'appartiens pas à l'association. Je l'ai fait avec une morale, avec des conseils. Et quand nous les abordons, c'est facilement qu'ils nous acceptent et ils acceptent les conseils. Le problème se pose, c'est quoi? Les gens qui sont en train d'élaborer ces lois, qui sont en train de collecter les fonds sociaux, ainsi de suite, ils ne sont pas en train de vivre les mêmes difficultés que les autres, sont en train de connaître dans la rue. Et ils peuvent seulement mettre beaucoup de temps pour ne pas aboutir à la chose. La mieux à faire, c'est impliquer, faire une technique simple, impliquer les gens vivant avec handicap, des personnes vivant avec handicap, qui sont un peu matures, qui ont étudié pour convaincre les autres et les proposer d'autres métiers qu'ils peuvent faire, vous verrez que ça ne va pas aboutir.
Merci.
C'est bien d'aller chercher l'argent.
Merci Jean.
Oui,
on a merci Jean d'avoir appelé de Lubumbashi à Adonis. Vous êtes à Kolwezi. Bonjour Adonis.
Bonjour Monsieur Marcel.
Rapidement Adonis, quelle est votre question sur ce sujet? Comment promouvoir les droits des personnes vivant avec handicap en RDC?
Voilà donc Monsieur Marcel, moi je voudrais d'abord commencer mon intervention par essayer un peu de définir le mot handicapé. Un handicapé, donc c'est une personne qui présente une infirmité par rapport aux organes de cinq sens. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons des handicapés, par exemple, un infirme. Vous voyez, donc c'est une personne qui ne sait pas bien marcher comme une personne normale. Mais cette personne a la capacité de bien raisonner, il a la capacité de bien écrire, il a la capacité de concevoir un projet, mais malheureusement, nous remarquons que ces genres de gens sont marginalisés, ils ne sont pas pris avec beaucoup de valeur que les personnes normaux. Alors que si nous les appelons et nous essayons de les introduire dans nos différentes sociétés, ils peuvent aussi produire un rendement efficace pour l'évolution de la nation. Aussi, je voudrais donner un petit conseil à tous ces gens qui sont en train de souffrir de l'handicapé. Il ne faut pas qu'ils profitent de leur faiblesse d'handicapé pour se pointer au coin des rues afin de demander un franc, deux francs aux passants. Qu'ils se prennent en charge, qu'ils se mettent en groupe pour essayer de voir comment ils puissent promouvoir leur capacité aussi à donner quelque chose pour l'évolution.
Merci. Et merci Adonis d'appuyer à ces temps. Merci d'avoir appelé de Kolwezi. Et on va prendre un dernier auditeur en ligne, Jean-Louis, qui nous appelle de Likassi. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour monsieur.
On vous écoute Jean-Louis.
Oui, je pense que les gens qui m'ont précédé ont presque tout parlé.
Oui.
C'est que je voulais aussi peut-être réitérer que on a toujours dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Autrement dit, on dit qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est-à-dire que nous avons entendu avec pertinence la dame qui est en train de parler là-bas. Ici à Ligassi, nous avons vu certaines humanitaires qui sont venues aider les gens qui vivent avec handicap.
Oui.
Moi-même, d'ailleurs, je suis l'une des personnes qui vit avec handicap, mais malheureusement, nous avons constaté que, en fait, ce sont les humanitaires qui nous viennent en aide parfois. Mais l'État lui-même n'est pas visible dans cette aide-là. On ne voit même pas quelque chose que l'État est en train de faire pour ces personnes-là. Je sais que la loi est en train d'être votée, et nécessairement elle sera votée, mais est-ce que l'applicabilité, parce que nous sommes en train de voir que ce sont les gens qui ne sont pas, qui ne vivent pas avec cette anomalie-là, qui sont les bénéficiaires de peut-être des dons, de ce que l'État peut donner. Je pense que ce que nous allons peut-être demander à la dame qui est dans votre studio-là, c'est peut-être tenir aussi au langage, hein, c'est-à-dire essayer un peu d'honorer leur engagement lorsque peut-être la loi sera votée, qu'ils prennent vraiment en considération parce que rien n'est seulement de parler, mais il faut quand même arriver à point.
Merci. Merci Jean-Louis depuis Likassi. On revient à vous, Madame Alice Mirimo. Oui, vous êtes directrice générale du Fonds national de la promotion des services sociaux. Donc, vous avez suivi toutes ces réactions. Mais oui. Avant de répondre à toutes ces réactions qui disent non, et c'est vrai que la loi pourrait être votée, rien ne va être fait. C'est vrai qu'on fait rien pour les personnes vivant avec handicap alors qu'il a tout un plan stratégique. Alors répondez d'abord rapidement à cette question. Est-ce que les sourds-muets font partie des personnes vivant avec handicap? Et qu'est-ce qu'on fait pour les sourds-muets au niveau du Fonds de promotion et des services sociaux?
En fait, vous allez remarquer que nous n'avons pas fait des programmes uniquement pour une catégorie de handicap.
Oui.
Le plan stratégique s'occupe de toutes les personnes handicapées, les sourds, les aveugles, le malentendant, les moteurs et tout. Donc, je pense que ce qui est important ici, et ça je réponds surtout à l'auditeur qui est carrément découragé il y a 10 ans et tout ça. Je pense que je peux le dire déjà il y a 5 ans que maintenant les choses ont été définies et ça évolue dans un chronogramme bien, bien clair. Je veux insister sur ça parce que c'est vrai que la population dit le social n'est pas bien et tout ça. Bon, tout le monde le voit, mais moi j'aimerais quand même donner une parole d'espoir. Vous savez, ce plan stratégique se retrouve dans un plan global du gouvernement. Tout a commencé en 2010, quand le chef de l'État avait déclaré l'année du cinquantenaire année du social. En 2012, le 21 décembre 2012, le gouvernement a adopté le plan stratégique et financier 2012-2016 du Fonds national de promotion des services sociaux. Ce même gouvernement a actualisé son texte de gouvernance parce que ce fonds, c'est l'ancien fonds du bien-être indigène. Pour ceux qui connaissent l'époque de 1948 jusqu'à vers les années 60, ils savent que toutes les infrastructures sociales qui existent dans ce pays depuis ces années-là, les hôpitaux de référence, les centres de promotion sociale, les hommes de vie, c'est ce fonds-là qui les a construits. Et toutes les stratégies de mobilisation de ressources, l'argent venait du Congo à travers les sociétés à charte qui sont aujourd'hui des sociétés minières, les autres sociétés. Et c'est ce qu'aujourd'hui on appelle la responsabilité sociale des entreprises. C'était la solidarité nationale. Et donc en 2012, le gouvernement a ramené la même stratégie pour affronter les problèmes sociaux. Et donc sur le plan de réglementaire, il fallait responsabiliser un établissement public qui a sa personnalité juridique, qui est un organe autonome et qui n'a pas les pressions politiques autour. Et donc, cela a été un acquis depuis 2012. Et ce plan stratégique est considéré aujourd'hui comme le plan social du gouvernement. C'est ce plan stratégique qui vient de donner naissance au plan stratégique spécifique pour les personnes handicapées. Nous travaillons aussi sur le plan stratégique des autres vulnérabilités. Et donc, je rassure déjà tous ceux qui, il y a 9 ans, croyaient qu'il n'y aura rien. Il y a au moins une institution répondant qui sert d'interface aujourd'hui et désormais, qui va collecter encore ces financements, qui jadis ont fait des œuvres chez nous et le feront encore. C'est un problème de confiance et d'implication. Parce que je rassure le aux uns aux autres.
Vous avez suivi quelqu'un dit bien souvent dans tous ces programmes, on n'implique pas les personnes vivant
on
avec
les
handicap.
Implique, oui. Moi j'ai des preuves. J'ai oui. travaillé tout ce que j'ai fait depuis 2010 qu'on a commencé ce processus des états généraux. Je l'ai fait avec les personnes handicapées. C'est soit directement, soit à travers leurs ONG. J'ai travaillé avec les structures même des bailleurs de fonds qui s'occupent de personnes handicapées. Donc au moins sur ce plan-là, j'ai eu cette implication-là. Mais seulement j'ai dit, la plupart des personnes handicapées, j'ai remarqué qu'ils sont plus dans la victimisation, en fait. Quand on est victime, on est plus attentiste. C'est-à-dire, on attend qu'on fasse pour soi. Mais il faut que la majorité rejoigne ceux qui sont là, ceux qui ont cru à cette initiative-là du chef de l'État, ceux qui y ont cru. Il faut que les gens aient au moins cet optimisme-là, cette confiance-là que ça peut aller loin. Et donc, maintenant, moi, je crois que c'est l'occasion pour demander, mettons-nous main dans la main. Parce que déjà, je pense, sur le plan au niveau du gouvernement, ils ont fait leur part. Hein. Nous attendons la part du Parlement. Je ne parle pas à leur place, mais au moins je témoigne ce que j'ai entendu le 3 décembre. Là, déjà, le fait qu'ils ont accepté qu'on fasse notre activité dans leur salle de banquet témoigne déjà de leur volonté d'aller plus loin avec ça.
Nous avons suivi également des auditeurs qui ont parlé, qui se demandent pourquoi cette loi traîne au niveau du Parlement.
Le président de l'Assemblée a parlé. Il a dit qu'il va faire passer cette loi lors de cette session. Nous le prenons au mot. C'est eux qui ont le budget, non, de 2017. Le budget n'est plus entre nos mains ni entre les mains du gouvernement. Et donc, jusque-là, je peux témoigner que sur le plan des institutions, nous avons reçu le répondant nécessaire. C'est maintenant au niveau opérationnel que tous ceux qui doivent participer dans le cadre de la solidarité nationale doivent y mettre la main.
Donc, les personnes vivant avec handicap ne perdent pas espoir. Vous avez parlé de cette loi qui organique, qui traîne au niveau du Parlement, dont on espère qu'elle sera votée et promulguée rapidement.
Mais voter permettez par les deux aussi que je les rassure, parce qu'il y a des gens qui ont cru que c'est le fonds maintenant qui va tout faire. Non. Le fonds national collecte les moyens. Mais chaque secteur, les ONG, ils vont eux-mêmes agir. Les secteurs de l'éducation, de la santé, les programmes de réadaptation restera là où il est, le programme de l'enseignement spécial restera là. On a juste l'avantage qu'il amène à une interface avec un manuel de procédure et de passation de marché clair, va maintenant attribuer des moyens au projet de protection et de promotion de personnes handicapées. Donc chacun doit être à l'aise maintenant parce qu'il y a au moins un répondant au niveau du gouvernement qui peut agir pour eux et qui peut booster les choses pour qu'ils aient les résultats. Ça, c'est important qu'il ait ça. C'est vrai que c'est tellement sombre, les gens n'y croient pas. Mais je vous demande d'y croire. Parce que moi-même, j'y crois. Et je sais que ça va aller.
Et nous aussi, nous y croyons, madame.
Merci
c'est qu'on fera, madame, puisque vous êtes directrice générale du Fonds national de promotion des services sociaux. Madame, ce qu'on pourra faire, c'est, dans nos prochaines émissions, parler également de ces plans stratégiques pour expliquer un peu à la population qui désespère un peu, toutes ces personnes qui vivent avec handicap, expliquer ces plans stratégiques et axe par axe, comment les personnes qui vivent avec handicap peuvent espérer quelque chose est en train vraiment de se faire par rapport à leurs conditions plutôt que de penser qu'ils sont des personnes totalement marginalisées.
Non, c'est la non-discrimination maintenant et la participation de chacun, sans couleur ni origine.
Madame Alice Mirimo, directeur général du Fonds national de promotion et services sociaux, merci en tout cas d'avoir été de notre pour parler de comment promouvoir les droits des personnes vivant avec handicap en RDC. Nous espérons vous retrouver également dans nos prochaines émissions, en tout cas pour parler de ces catégories de personnes.
C'est moi qui vous remercie.
Merci.